Bonjour mes amis, cette fois-ci je n'ai pas raté les trains, je vais me l'excuser et j'avais vraiment honte la dernière fois, quand j'étais couché sur mon canapé tranquille et Christine a dit il y a un téléphone qui sonne là, ici Anne-Marie Lambert, je dis oui, oula, oula. Le Seigneur est celui qui conduit nos cœurs. Il veut nous parler cet après-midi. Et moi, j'avais préparé d'une façon ces textes, ces messages. Mais du temps où j'ai commencé jusqu'à ce matin, j'ai dû les changer. Parce que le Seigneur m'a parlé. Et ça, c'est qui est beau dans les messages bibliques, c'est que tous sont concernés. C'est qui sait qu'il entend, et d'abord c'est qui parle. Parce que devant Dieu, nous sommes tous pareils. Nous avons besoin de sa miséricorde, de sa grâce. Nous sommes comme ça, les hommes changent comme les vents, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous changeons d'avis à tout instant. Le matin, nous disons, ça doit être comme ça. Dans l'après-midi, on s'est dit, bon, ouais, peut-être que c'est pas très, très bien comme ça. Et les soirs, on pense une autre chose complètement différente. Nous sommes des êtres en constant, et c'est ça qui nous sommes. Mais la parole de Dieu, merci Seigneur, elle demeure fidèle et inébranlable. Un rocher au milieu de toute cette tempête et de ces mondes qui changent. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous parle, qu'il nous parle une autre fois, que le Seigneur nous parle avec tendresse et qu'il nous parle doucement. Et comme il l'a fait dans les passés, qu'il le fasse aujourd'hui à nouveau. Nous avons besoin d'être rappelés en tout moment. Rappelés 1000 fois, 10 000 fois et jusqu'au dernier jour. Aujourd'hui, je voudrais, basé sur ces textes, vous parler des 4 points, des 4 enseignements, des 4 conseils donnés par Jacques. Le premier, c'est d'apprendre à se taire. Apprendre à se taire, très important. Le deuxième, les dangers de la colère. Troisièmement, la parole de Dieu, notre miroir. Et quatrième, et dernier point, la vraie religion, secourir les malheureux. Avant d'entrer dans ces 4 points, je voulais avec vous nous rappeler un peu de l'auteur de cet épître. Comment ne pas être émerveillé d'entendre les témoignages d'un frère, pas un frère comme nous, un frère des chairs de Jésus-Christ. Comment ne pas être à l'écoute de quelqu'un qui a grandi dans l'intimité de la famille de Jésus et a subi l'influence de son frère aîné. Il a été formé dans cette sainte école, côte à côte avec Jésus, en absorbant des traits de cette personnalité supérieure. En écoutant Jacques, c'est comme si on entendait des échos de la voix du Maître. Quelle spiritualité, quelle profondeur et quelle simplicité de Jacques. Chez Jacques, rien des dogmatiques, des notions abstraites, mais tout est dans l'application quotidienne de la vie. Jacques, par sa piété, et sa force morale a été surmenée les justes et placée à la tête de l'Église de Jérusalem. L'épître de Jacques, c'est un morceau unique dans son genre dans le Nouveau Testament. Il est comme les Salomon de la Nouvelle Alliance. Il est les plus purs représentants du christianisme des premiers jours qui persévéraient attaché au temple et aussi se réunissait dans les maisons particulières pour rompre du pain pour les rompes du pain et le repas communautaire. L'enseignement numéro 1, l'on t'a parlé, verset 20. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, l'on t'a parlé. Long et long à se mettre en colère. Ma grand-mère me disait toujours, Renato, quand tu n'as rien d'intéressant à dire, tu simplement tu t'étais. Moi, je confesse que je n'ai jamais appris la leçon au complet. Soit j'ai dit ce qu'il ne voulait pas dire, soit je n'ai dit ce qu'il fallait. Mais surtout, je ne la bloque pas souvent. C'est tellement simple, mais comme il est difficile de fermer la bouche. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Proverbe 21, 23. Si vous n'avez pas souligné ces versets, c'est le moment. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Combien d'angoisses nous passons, combien de petits problèmes, des grands problèmes de la vie, simplement parce qu'on n'a pas fermé notre bouche. Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. En méditant sur cette question, je me suis dit, alors, est-ce qu'il faut vraiment que je ferme ma bouche et que je reste le plus possible dans le silence? Et je sais la réponse, et nous savons tous la réponse. Oui, nous devons fermer la bouche. Fermer sa bouche, selon les Écritures, dans les originaux, ça veut dire simplement fermer sa bouche. C'est étonnant de constater que ceux qui n'ont rien à dire sont ceux qui parlent le plus. Et ça aussi, c'est vrai dans les églises. Le Seigneur nous appelle à faire une économie des paroles, des mots. Le Seigneur nous appelle au silence, parce que c'est dans le silence qu'il peut nous parler. Lorsque les amis de Job ont fini de parler, c'est là que le Seigneur, du milieu de la tempête, a commencé à parler à Job. Qu'il est difficile de trouver le silence dans notre cœur. Il y a une petite voix qui est tout le temps en train de parler. Il faut que j'arrive chez moi, il faut chauffer le repas. Il faut mettre les langes à sécher. Il faut passer un coup de balai. Il y a une fenêtre qui a été ouverte. Demain, j'ai le travail. Je dois prier. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas appelé. Je dois appeler quelqu'un. Je dois lire telle chose. Demain, je dois prendre le bus. Il va passer à 9h45. Il faut que je me dépêche parce que la dernière fois. Donc, il y a une petite voix dans notre cœur, dans notre intérieur, toujours en train de parler. Et là, comme elle est difficile, qu'on s'arrête et dire, là, je vais parler avec mon Dieu. Comme elle est difficile de trouver ces moments. Dans mon cas, il faut que d'abord Nina soit couchée. Ben, sinon, c'est pas possible. Après, il faut que la télévision soit éteinte. Comme elle est difficile de nous calmer devant la présence de Dieu. Et c'est là, les moments où on doit parler, c'est au moment où on s'était. Les moments où Dieu nous appelle à la prière, nous ne trouvons pas des mots. Nous sommes bien fatigués de la journée. Des mots que nous avons écrits et que nous avons lus sur notre portable. Pourtant, c'est là par la prière que nous allons vaincre ces mondes. C'est seul par la prière que nous allons surmonter les problèmes de cette vie. C'est par la prière, c'est en parlant avec Dieu qu'il nous parle également. Jacques nous parle de la valeur du silence dans les moments tendus, les moments des conflits, de colère. C'est à ces moments-là précis qu'il faut apprendre à se taire et apprendre à mesurer chaque mot. Sous pression, quand les émotions sont comme la cocotte minute, il vaut mieux se taire complètement. Notre orgueil veut toujours qu'on dise les derniers mots. Les cœurs du juste méditent pour répondre. Proverbe 15, 28. Les cœurs du juste méditent pour répondre. Il y a des réponses qu'il ne faut pas les donner tout de suite. Il faut la méditer. Il faut prier. Il faut l'avaler. Il faut la garder. Quand ça chauffe, normalement, nous disons des paroles blessantes. Et ça y est, les dégâts sont faits. Une simple parole, elle peut détruire toute une vie. Jésus nous a dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Numéro 2, les dangers de la colère. Et Paul nous écrit comme ça, que toute armature, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez. Ma fille, dans la voiture à tout à l'heure, m'a demandé, papa, comment on écrit pardon, pardonner? Et je lui ai dit. Et tiens, j'ai pensé, nous savons comment écrire, mais dans notre cœur, nous ne nous avons pas appris à pardonner comme il faut. Il faut pardonner 7 plus 70. Ça veut dire que nous devons pardonner à infiniment les personnes. Nous devons pardonner en famille, entre frères, dans l'Église. Quelques scènes de la vie quotidienne me sont venues à l'esprit. Comment ne pas être colérique quand on a une belle-mère comme la mienne? Personne ici a une belle-mère spéciale comme la mienne. Faites par mesure. Le Seigneur a dit, je vais faire spécial pour Renato. De moins, le Seigneur m'a donné de la force pour l'appeler au téléphone et lui dire, joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Et ça passe toujours. Mais c'est juste une rigolade. Pauvre de la belle-mère, nous aimons massacrer celle qui nous a enfanté l'objet de notre amour. Notre femme ou notre mari. En effet, la belle-mère est la caricature de chacun de nous. Intransigeante, jaloux, possessif, manipulateur. C'est ça l'être humain. Nous sommes tout simplement comme ça. Et comment il est difficile de vivre ensemble. Moi, je ne pourrais pas vivre avec ma belle-mère. Mais en même temps, je vois qu'il est difficile à vivre avec n'importe qui. Au début, tout est beau, tout est rose. Et après, tout devient noir. La colère est à 90% une manifestation charnelle et diabolique. Galates 5, du 20 au 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les amitiés, les querelles, les jalousies, sectes, l'envie, les meurtres, ivrognerie, l'excès de la table, des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Paul met à la même échelle l'adultère et les querelles, les jalousies, les disputes, les crieries et l'envie. Et moi, en pensant sur les scènes de la vie, je me suis dit, quelqu'un peut me demander, mais en tant que chrétien, en parlant des colères, est-ce que je peux me mettre un gilet jaune et aller me manifester à Paris? Tout d'abord, si tu prends avec toi une barre de fer et c'est à minuit aux Champs-Élysées, ma réponse est non. Tu ne dois pas faire ça comme chrétien. La société est complètement en colère. La colère est devenue les mots d'ordre. Voilà une question que l'Église doit s'arrêter pour méditer, pour réfléchir. C'est pas ignorant comme moi qui pouvait vous donner la réponse. Mais c'est vrai que l'Église doit voir sa position dans la société. Jusqu'à présent, l'Église s'élève contre les mariages gays, contre l'avortement, mais l'Église doit aussi se prononcer pour les injustices sociales, pour les peuples, pour ceux qui sont dans le besoin. La colère, elle a sa place, mais que le Seigneur nous garde de la manifester au-delà de ce qu'il nous permet. Que le Seigneur nous donne la paix dans notre cœur. Que le Seigneur nous donne les discernements. Parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Mon fils s'est fait agresser, c'était le 2 février, c'était les jours de son anniversaire. On lui avait donné 100 euros. Quelqu'un, c'était minuit, il fêtait avec ses amis, quelqu'un est venu, l'a donné un coup sur son visage, très fort, l'a tabassé, il est tombé par terre, il ne comprenait pas pourquoi il était en train d'être battu. Le type l'a demandé son argent, il l'a donné, et il voulait plus, il a trouvé, en fouillant son sac, il a trouvé sa carte, il a pris sa carte, l'a forcé à aller à la banque pour retirer 200 euros. Du coup, je me réveille à 1h30, il y a mon fils avec son visage bien blessé et deux policiers qui l'accompagnaient. Les premières envies, après bien sûr accueillir mon fils, c'était de dire, bon, là c'est à mon tour, on va aller chercher qui t'a fait ça, parce que c'est pas possible qu'on fasse comme ça un jeune homme comme toi. Mais nous savons très bien, mes amis, d'abord, selon la justice, que nous ne pouvons pas nous venger de nous-mêmes. Ça, c'est pas notre rôle. Même si notre fils il est touché, ça nous révolte, on est pris des colères. Nous devons obéir la loi et d'abord le Seigneur. Dans ces moments, je me suis dit non, je vais remercier le Seigneur parce qu'il pouvait bien être blessé à l'hôpital. Il pouvait être attaqué par un couteau, avec quelqu'un avec un couteau. Et mon fils, il était là, il est entier. Il a perdu son argent et il aussi a gagné une leçon de vie parce que c'est pas une nuit qu'on doit rester dans la rue, n'importe où. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous soyons prudents, vigilants, et que notre colère ne dépasse pas, que nous cherchons d'abord, tout d'abord, ce que Dieu pense. C'est pas notre émotion du moment. La parole de Dieu est notre miroir, c'est le troisième point. Une fois, ça fait longtemps, J'ai eu une journée horrible. J'étais complètement perdu, sans espoir, ces matins-là. J'étais loin du Seigneur. Ma femme, qui ne connaissait pas Dieu, Jésus-Christ, Église, du coup, elle m'a dit, « Renato, écoute, tu m'as dit que tu étais chrétien, que tu as une Bible. C'est vrai que tu n'as lu, ça fait longtemps. Mais prends ta Bible, on va l'ouvrir, et si c'est Dieu existe, il va te parler. » Bon, sans lui faire trop confiance, j'ai pris la Bible, et je l'ai ouvert au milieu. Il s'est tombé sur les Proverbes 4, où c'est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Garde-la, car elle est ta vie. » En lisant tous les chapitres 4, j'ai trouvé ma vie. J'ai eu honte de moi-même. C'est comme si une voile était tombée. Et tout d'un coup, je m'ai vu misérable, vil, lâche et impur. Jamais je m'étais vu de cette manière. Cette révélation de moi-même m'épouvantait. Mais en même temps que cette parole nous révèle nos péchés, parce que la Bible, c'est le seul livre qui ne cache pas la grande vérité que nous sommes tous des pécheurs. En même temps que ce livre nous apporte la condamnation, les mots des jugements de Dieu, elle nous appelle mon fils, et nous invite à nous détourner de notre chemin et de revenir à Dieu. Quel livre ! Ne croyez pas en moi. Qui est Renato ? Qui importe Renato ? Prenez ce livre, lisez-le, gardez-le dans votre cœur. Il va être pour vous comme une bussule dans ce monde. À partir de ces jours où je me suis tourné au Seigneur, je prends soin de ma Bible. Cette Bible-là, elle doit avoir, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Chaque fois qu'elle est usée, je lui passe un petit crayon noir. Voilà. Je ne laisse pas d'oreilles. Il est plein de notations. Je la garde. Celle-là, il y a encore une dizaine d'autres Bibles. Ça fait partie de ma vie. Et je veux pas laisser la parole de Dieu. Comme je l'ai lu plusieurs fois, je me donne les droits de le soir avant de me coucher. Si j'ai envie de lire l'Ancien Testament, je lis l'histoire de Jacob, de son rêve. Si j'ai envie de lire un psaume, ou si j'ai envie de lire les lettres de Paul, je me promène dans la Bible comme c'était ma maison. Et c'est là que le Seigneur me parle, où il renouvelle mes forces, où je comprends que ça vaut la peine de servir à Dieu. Parce que nous avons les plus grands documents de l'humanité sous nos yeux, la parole de Dieu. La parole, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole, 119, 67. Moi, j'ai fait mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Verset 22 de Jacques. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est triste, mes amis, de constater qu'il existe beaucoup de gens, beaucoup même, maîtres de la Bible, docteurs d'hébreu, du grec, et j'ai dit là du texte, pas du, hein, dotés d'une mémoire hors du commun. Non moins, ils sont durs dans leurs paroles, insensibles, secs, sans vie, sans affection, égoïstes, vides de la présence de Dieu, incapables de faire les biens. Que le Seigneur nous garde de l'orgueil théologique. Quelle grande misère. Je travaille dans une école biblique et je vois que parfois ceux qui ne connaissent rien du Seigneur, ils ont un témoignage plus fort et plus vivant de ceux qui connaissent beaucoup. Le Seigneur Jésus, il habite dans les cœurs humbles d'abord. Il n'habite pas les cœurs des orgueilleux. Jésus, c'est tout d'abord et avant tout un pauvre charpentier venu d'un village qu'il a mal famé, venu de l'ombre de la Galilée. C'était comme ça que le Seigneur a voulu devenir chair, naître dans une crèche et mort entre deux voleurs, même pas entre deux maîtres de la loi. Il est mort entre deux voleurs. Quatrième point, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Je vais vous poser la question, qui a visité les orphelins et les veuves cette année? Non? Personne? Moi non plus. L'année dernière? Non? Veuve, orphelin? Non plus? Moi non plus. Mais en fait, c'est juste une locution hébraïque. C'est une manière de s'exprimer, cachant sur un détail l'idéal, l'idée générale. Les orphelins et les veuves signifient ici, en réalité, tous les malheureux. Tous les malheureux. Une église qui fait pas un travail social n'a pas droit d'être appelée église. Et on peut commencer le travail social par nos frères qui sont là dans leurs besoins. Et comme dit Jean, si tu vois un frère qui est dans le besoin, tu dis que les cieux te bénissent, hein, et tu ne lui donnes rien. Ça, c'est pas de l'amour. Quand on voit que notre frère est dans le besoin, nous sommes obligés. C'est la loi de Christ que nous soyons prêts à aider. Et quelqu'un pourrait dire, Renato, nous, comme église, nous ne faisons rien. Bon, alors, c'est le moment de s'y lancer et commencer. Il faut juste ouvrir les yeux. En allant à Paris vendredi, ça fait déjà un moment que je prenais pas la périphérie, que j'étais étonné de voir combien des tentes, combien des gens habitent dans la rue. Je me suis dit, j'étais avec un camarade, un étudiant, je dis, mais moi, j'ai froid dans ma maison. Parfois, je mets deux chaussettes. Parfois, je me prépare une tasse de thé parce que j'ai froid. Quelle nuit, comme ces gens peuvent se coucher dans une cabane comme ça. L'Église doit être les bras du Christ sur la terre. Il y a eu un homme, un missionnaire catholique, défenseur des paysans, sans terre au Brésil. Il était né en 1930 et mort en 2017. Il s'appelait Henri. Henri était un mélange des d'indignation et de l'extrême compassion. Un jour, qu'il était venu rendre visite à un paysan battu, pour avoir refusé de quitter la terre qu'il occupait, Henri s'est mis à pleurer en voyant l'homme étendu dans un commissariat. Un autre homme qui l'accompagnait, en voyant cette image, a écrit à propos d'Henri. On s'est demandé parfois où est Dieu. Voilà, le Christ est devant nous. Sa vie entière est en conséquence parfaite avec ses idées. Il a marqué les esprits des gens par son amour, par son travail missionnaire. Il est temps que nous quittions nos murs et que nous allions à la recherche de ceux qui sont oubliés. Laissez la lumière de Christ briller, mais pas ici, dans la clarté, mais dans les ténèbres. C'est là le message de Jacques. Ça, c'est la vraie religion. Et c'est vrai que nous, les évangéliques, nous faisons très, très, très peu d'œuvres sociales. Ce qu'on fait, c'est, je trouve, plutôt la perte de temps, c'est de ramasser des vieux vêtements qu'on ne veut plus, et qu'on les entasse dans un coin perdu de l'église, et qu'une fois par an, on fasse une braderie. Le Seigneur veut bien plus que cela. Il y a des gens qui ont faim, des gens qui ont froid, et le Seigneur Jésus nous appelle à faire son œuvre. Nous, les évangéliques, avons été toujours jugés et pas sans raison, que nous voyons juste évangéliser. Hein, nous voulons prêcher Jésus, les saluts. Mais avant ça, et là, l'armée du salut a bien compris qu'il fallait un plat de soupe et du savon avant de prêcher le Sauveur Jésus-Christ. Et Jacques termine ce chapitre avec ces paroles. Notre religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Le monde, ces mots vagues, ces mots de plusieurs sens. Ici, c'est la société humaine sous l'empire du mal. Le monde qui tourne fou, égoïste, rebelle à Dieu. Tournons nos dos définitivement pour le monde. Vidons nous-mêmes du reste du monde qui habite en nous. Mourons d'une fois pour toutes pour le monde et vivons pour Dieu seul. À lui toute la gloire et toute l'honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voulais prier avec vous. Seigneur Jésus, nous venons d'écouter Jacques qui nous a parlé très directement, Seigneur, avec beaucoup de simplicité. Permets-nous, Seigneur, de garder les silences, de parler moins et agir plus, et agir selon ta volonté. Nous te prions que tu bénisses nos vies, Seigneur, que tu nous pardonnes nos paroles, que tu nous aides, Seigneur, à être témoins dans les paroles, dans les gestes, dans l'attitude, dans les actions, pour que ton nom soit glorifié. Et nous te prions de nous aider, Seigneur, à aller vers ceux qui ont besoin, ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, que tu puisses réveiller ton Église. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être détachés de tous les biens matériels, Seigneur, en faveur des autres. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau, un cœur où tu puisses écrire ta loi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que nous vivons dans un monde, Seigneur, sans toi, et nous avons besoin de toi aujourd'hui. Je t'ai pris au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour cette occasion.